deuxième cours.
On va voir tout de suite dès ce premier chapitre. Je crois que le premier chapitre du livre d'État est très important parce qu'il nous donne d'une manière extrêmement simple, directe, ce que représente toute l'orientation du livre. Enfin, toute l'orientation du livre sera vue après. Aristote commence par rappeler donc que le maître tourne ce qui est et dit polakos. Vous voyez, c'est très curieux comme manière d'introduire la chose. Enfin, il introduit la chose en dépendance de ce qu'il a dit précédemment par rapport à l'être qui est dit de plusieurs façons. Dans le livre Gamma, nous avions vu que le livre Gamma est de fait un livre critique, de sorte qu'on a l'impression qu'Aristote a introduit ce livre Zeta par un point de vue critique. Vous voyez bien, une réflexion critique. Autrement dit, on a déjà vu que l'être se dit de multiples manières, l'égétal. Il faut bien voir ce que ça représente du reste végétal, l'être est dit de multiples manières. Eh bien, si l'être est dit de multiples manières, la première, c'est le tiesti, qui signifie l'ousia. Voilà ce qu'il nous dit immédiatement. Il rappelle la diversité des manières, mais au fond, c'est le tiesti qui signifie l'ousia. La première conclusion est donc celle-ci. En prenant l'être se dit de multiples manières, c'est pas la peine d'insister là-dessus, nous l'avons déjà vu, mais la conclusion qu'il retient ici, c'est que la première, au sens fort, toutes les autres sont relatives à celle-là, la première manière d'accepter le l'être, c'est donc le diesti, le quête, qui signifie l'oubliant. Le quête signifie l'oubliant. Il exprime l'oubliant. Donc Aristote maintient ici le lien que lorsqu'il s'agit de regarder la multiplication d'accepter l'être, le tiesti signifie l'ousia. Il ne dit pas égal l'ousia et l'ousia ne signifie l'ousia. Toutes les autres acceptations sont relatives à cette première et le langage est là pour nous la tester. Donc, première affirmation, nous devons chercher l'ousia dans la ligne du tiesti. Et le tiesti correspond donc par rapport au toan, à la donnée première, le tiesti correspond à la première acceptation du toan. Le toan est pris en premier lieu comme tiesti. Le toan est pris en second lieu par la quantité, la qualité et tous les autres. Enfin, ce qu'on appelle les prédicaments. La division de l'être dans les différentes catégories. C'est la division de l'être dans les différentes catégories. La première, c'est le tiesti, qu'est-ce qui signifie l'outil. Bon. Deuxième affirmation, c'est affirmé tout simplement comme ça. Il faut prendre brutalement comme il le dit. Ça c'est brutal, mais c'est comme ça. Brutal parce que ça présuppose, le livre Gamma, ça présuppose tout un ensemble. Deuxième affirmation, ça part d'une objection. On écoute l'aporie, marcher, être en bonne santé, n'est-il pas aussi une substance? On dit que pour la substance, selon le langage, c'est le tiesti, donc quelque chose qui possède une certaine autonomie, les autres sont irrelatifs à l'oubli. Les autres ont dit relatif à la substance. Mais alors, on voit très bien l'objection, mais alors, au fond, marcher, être en bonne santé, n'est-il pas quelque chose de premier? Je crois qu'Aristote souligne là quelque chose de très très important, c'est que notre langage, donc notre langage qui exprime notre pensée, notre langage substantifie les choses. Nous avons une maladie de substancier toutes choses. Enfin, la blancheur, toujours les choses abstraites. Les choses abstraites, quand on regarde la différence du concret et de l'abstrait, l'abstrait, c'est qu'on projette et qu'on substantifie. C'est-à-dire qu'on donne une autonomie. Alors, je crois que c'est très important de souligner ça dès le point de départ, de voir, faisons attention, nous cherchons l'ousia par rapport à l'être. Nous ne cherchons pas du tout l'ousia par rapport à la pensée. Par rapport à la pensée, on substantifie les choses. Vous pouvez parler de la blancheur. La blancheur, d'une certaine manière, elle est capable de jouer le rôle de substance. Dans l'ordre de la pensée. Dans l'ordre de la pensée, vous substanciez les choses. Et c'est pour ça qu'immédiatement Aristote souligne, en réalité, ce n'est pas marcher qui est la substance, celui qui marche, celui qui est en bonne santé. Donc, on supprime ce que la pensée, l'intelligence est capable de faire en substanciant, en disant non, nous regardons la réalité. C'est ce qui marche qui est important. C'est ce qui est en bonne santé. C'est ce qui est pris donc individuellement qui est substance. Toutes les attributions manifestent ce sujet, car elles n'existent que par lui. Donc c'est ce qui marche celui qui marche, qui le fait est la substance, et non pas marcher. Donc, c'est simplement ce qui marche, il s'agit de réfléchir là-dessus, ce qui marche, et puis de marcher. Marcher pris à l'infinitif peut être pris d'une façon substantielle, au point de vue grammatical, au point de vue de l'intelligence, on substantifie. Mais substantifier de cette manière-là n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est la réalité, ce qui marche, celui qui marche. Celui qui marche, c'est le sujet de toutes les attributions. Donc, nous voyons, dès le point de départ, deux pôles que nous retrouvons à travers toute cette étude du livre de l'État, et c'est pour ça que je crois qu'Aristote nous le donne de cette manière-là, les deux pôles qui vont être toujours la recherche de l'Ousia, le point de vue du Tieti, donc la détermination principale et fondamentale, le Tieti. C'est ce qui est déterminé. Le Tieti, c'est la détermination. On traduit souvent Tieti l'essence. J'aime pas beaucoup, ça ne dit pas tout à fait l'essence. L'essence prendra une détermination un peu différente. Je crois que je voudrais mieux dire la détermination. Le Tieti, c'est quand on interroge une chose, on veut savoir ce qu'elle est. Savoir ce qu'elle est, c'est sa détermination. Sa détermination fondamentale, sa détermination première. Donc, c'est bien la détermination première. Les autres déterminations relatives n'est pas l'Ousia. L'Ousia, c'est la détermination première. On ne peut pas aller au-delà dans l'ordre de la détermination. C'est pour ça que Tieti, qui représente la première acceptation de l'être, signifie l'Ousia. L'être est premièrement l'Ousia, parce que l'Ousia, c'est la détermination première. Et l'autre aspect, le point de vue du sujet. La substance regarde à la fois la détermination première et le point de vue du sujet. Puisque de fait, si je prends marcher, c'est substantier quelque chose dans le langage, je vois qu'en réalité marcher revient à ce qui marche, c'est la substance, c'est le sujet. C'est le sujet de l'action. La substance est sujet d'une action. Toutes les actions se ramènent à la substance. Puisque l'action comme telle, marcher comme telle, ne peut pas être pris comme un absolu. Et donc il faut revenir à celui qui marche. Celui qui marche, c'est justement l'aspect fondamental. L'aspect fondamental, c'est celui qui marche, donc c'est le sujet. Donc nous trouvons ici, dans cette première affirmation, donnée dès le début, comme ça, sans introduction, tout de suite, direct, deux visions sur ce qu'en représente la substance. Le point de vue de la détermination première, le tiers, et le point de vue du sujet, le sujet radical. Vous voyez que, de fait, ces deux choses nous représentent quelque chose de très très différent. Comme on dit, nous saisissons, nous dirions dans un langage moderne, nous saisissons dès le point de départ l'ambiguïté de la substance. Aristote nous montre immédiatement l'ambiguïté de la substance. La substance recouvre le monde tout à fait différent. Le monde de la détermination et le point de vue du sujet. Et que de fait, c'est impliqué dans la substance. Si vous prenez Ousia, selon ça, sa détermination habituelle, vous êtes tout de suite orienté à dire qui est qui, vous êtes orienté à dire sujet. Or, détermination et sujet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, nous saisissons bien l'ambiguïté de l'Ousia. Oui, je crois que c'est ça qu'il veut montrer. L'ambiguïté de l'Ousia. C'est pas facile du tout de savoir ce que c'est que l'Ousia. C'est pas facile du tout de savoir ce que c'est que la substance. Parce que si vous regardez le point de vue de l'être, les acceptations habituelles de l'être qu'on a données, la première acceptation de l'être, c'est l'Ousia. Toutes les acceptations de l'être se disent en fonction de l'Ousia. Si vous regardez le langage, l'étude du langage, vous voyez que l'ousia, c'est le sujet. C'est le noyau auquel tout est attribué. Tout attribue à ce sujet, c'est l'ousia. Donc, la substance, c'est à la fois la détermination et le sujet. Alors, à partir de là, il va encore préciser. C'est pas suffisant, pas ça. Ça montre bien, je crois que c'est très fort de montrer ça dès le point de départ comme grande affirmation. Autrement dit, nous ne pouvons pas simplifier le problème. Je crois que c'est ça que je veux dire. Nous ne pouvons pas simplifier le problème. Quand on regarde ce que c'est que l'Ousia, qu'on veut savoir ce que c'est que l'Ousia, nous voyons tout de suite que de fait l'Ousia recouvre deux mondes tout à fait différents. Le monde du sujet, le monde de la détermination. D'autre part, quand nous regardons le tiesti, nous voyons que le tiesti, c'est ce qui est premier dans l'ordre de l'être. La substance aussi est première, mais d'une autre manière, c'est pas ça qu'on regarde. Donc, elle est première. La substance est quelque chose de premier. Quand on veut saisir ce qui est premier, le premier se dit de diverses manières. Il y a trois priorités de la substance. Donc, quand on dit que la substance est la détermination première, comprenons bien ce que ça veut dire. Il y a une triple détermination de la substance. Il y a une triple priorité. Il y a la priorité selon le temps. Il y a la priorité selon le logos. Et il y a la priorité selon la connaissance. Ceci aussi est une chose connue pour Aristote. C'est pour ça qu'il va vite, il ne détermine pas. C'est une chose connue, il l'a donnée dans le livre Delta. Vous vous souvenez, nous l'avons vu au livre Delta. Parce que je vous avais dit que c'était très important pour comprendre la pensée d'Aristote. La question de la priorité et de l'antériorité et de la postériorité joue un rôle constant dans la pensée d'Aristote. Pourquoi ? Parce que la question de l'ordre, la question de la succession, dans notre intelligence humaine, joue toujours quelque chose de très important. Et nous concevons souvent les choses selon leur situation. On voit très bien. Parce que notre intelligence humaine a beaucoup de peine d'être intuitive et donc de saisir les choses en elle-même. Parce que nous avons beaucoup de peine de saisir les choses en elles-mêmes, nous les saisissons en référence avec d'autres. Si nous les saisissons en référence avec d'autres, il est donc très important de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Et donc, on comprend très bien qu'au point de vue de la connaissance philosophique, la question de l'ordre joue un rôle capital. C'est-à-dire la question de l'antériorité et de la postériorité. Or, l'antériorité et la postériorité peuvent se donner selon des aspects différents, ou selon le temps. Alors, nous avons le point de vue du mouvement, ou selon le point de vue du logos, et nous avons le point de vue de l'intelligibilité, ou selon le point de vue de la connaissance comme telle. Alors, on va dire que la substance est première comme détermination. Dans l'ordre de l'être. Elle est l'être parfaitement déterminé. Donc elle est l'être parfaitement déterminé puisqu'elle est la première dans l'ordre de la elle est première dans l'ordre de la détermination par rapport à l'être. Elle est première selon le temps. C'est-à-dire, seules les substances peuvent être séparées des autres êtres. Donc dans le temps, c'est la séparation existentielle. La substance seule peut exister d'une façon autonome. Alors que les accidents ne peuvent jamais exister d'une façon autonome. Seconde priorité, selon le logos. Logos. Après, des jeux de logos, c'est très difficile à traduire. Chrono, c'est plus facile à traduire. Tandis que le logos, c'est très, très difficile à traduire. Alors, maintenez logos. Ce n'est pas mauvais, du reste, de maintenir logos. C'est d'arriver progressivement à comprendre ce que c'est que le logos grec. C'est pas si commun que ça. Donc, maintenez le point de vue du logos et mettez entre parenthèses intelligibilité. C'est l'aspect de l'intelligibilité, c'est l'aspect de la définition. Quand on définit une chose, on essaie de saisir son intelligibilité. Si on veut donner une bonne définition de la chose, on la ferme et on essaie de voir exactement ce qu'elle est. Là, ça c'est définition et logos se tiennent toujours. Ou vous pouvez mettre discours, mais discours c'est beaucoup plus vaste. Hein. J'aime pas beaucoup discours. Ça se dit couramment aujourd'hui, mais c'est pas très très précis. Logos est plus précis que discours. Parce que, ou bien là vous dire que c'est un discours qui veut être précis. C'est un discours qui veut saisir l'intelligibilité des choses. C'est un discours qui tend vers la définition. Donc, on peut dire définition. Alors, selon la définition, ou selon le logos, la substance est première, en ce sens que seule la substance peut être définie indépendamment des autres. Toutes les autres sont définies par la substance. Donc, elle est première dans l'ordre du logos. Du logos. Elle est première dans l'ordre de l'intelligibilité. La substance possède en elle-même une intelligibilité parfaite. Alors que toutes les autres déterminations possèdent une intelligibilité imparfaite et relative. Troisièmement, priorité selon la connaissance de nos faits, selon la connaissance la plus pénétrante d'une réalité, c'est la substance. Quand je veux connaître une réalité et que je la connais par la quantité, que je la connais par la qualité, ce n'est pas suffisant. Je continue d'interroger et je veux savoir ce que c'est que cette réalité. Tant que je n'ai pas dit la substance d'une réalité, je ne la connais pas véritablement. Je ne l'atteins pas véritablement en elle-même. Donc au point de vue de la connaissance, la substance apparaît comme première. Alors, vous voyez que ça corse le problème, hein, ça, si je veux essayer de comprendre. Hein. Ce début du chapitre premier d'Aristote. Je retiens deux conclusions. La substance, c'est la première détermination. C'est affirmé, hein, c'est affirmé. Aristote ne le prouve pas. Cherchons pas une démonstration, là. C'est affirmé. Nous entrons dans la pensée d'Aristote et nous essayons de la saisir. Il faut d'abord voir ce qu'il affirme. La substance, c'est la première détermination. Qui est au sens fort. Tous les autres sont relatifs à ça. La substance, c'est le sujet. Deuxième affirmation, dans l'ordre de la détermination, c'est une détermination tout à fait spéciale, puisqu'elle est première selon le sens, selon le logos, selon la connaissance. C'est-à-dire qu'elle possède une autonomie existentielle. Elle possède une autonomie dans l'ordre de l'intelligibilité. Et elle est première dans l'ordre de la pensée, c'est-à-dire qu'elle suffit à la connaissance. Alors que toutes les autres connaissances ne se suffisent pas à elles-mêmes. Donc voilà, je crois qu'on peut dire que cette priorité dans le TST, cette priorité dans la détermination, est une priorité qui implique l'autonomie existentielle, elle implique l'autonomie au niveau de l'intelligibilité, du logos, et elle implique par le fait même aussi la satisfaction plénière pour la connaissance. Elle finalise la connaissance. La connaissance, tant qu'elle n'a pas atteint le point de vue de l'ouvia, ne peut pas se suffire, elle demande d'aller plus loin. Alors vous voyez que c'est comme début, hein, ça vous donne quelque chose d'extraordinairement fort. Hein. C'est une affirmation. C'est une affirmation du début. La recherche vient après. Hein. C'est l'affirmation du début. Ça correspond, si vous voulez, je crois qu'on pourrait dire ça aujourd'hui, ça correspond à une intuition fondamentale de la pensée d'Aristote. L'intuition fondamentale de la pensée d'Aristote, c'est cela. C'est que l'ousia va lier le premier dans l'ordre de la détermination et le sujet racine. Et donc elle est première dans l'ordre de l'être au sens le plus fort. Et pour bien nous montrer l'importance de cela, de cette intuition, il nous dit du reste, on a toujours interrogé à propos de la substance, alors vous voyez, c'est une raison de confirmation topique. Ce n'est pas l'importance, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir. Aristote se réfère à la tradition en disant que de fait, on a toujours, dans le passé, à présent et toujours, ce qui est toujours mis en question, c'est qu'est-ce que c'est que l'être. Or, qu'est-ce que c'est que l'être revient à qu'est-ce que c'est que la substance. Donc, c'est bien l'interrogation principale de la philosophie première. Qu'est-ce que c'est que la substance? Et quand on pose la question qu'est-ce que c'est que la substance, on cherche le qui est-il de l'ousia. Alors ici, il faut bien saisir, parce que c'est aussi important. Pour comprendre la question, c'est toujours important de comprendre la question. Même si on n'a pas de solution, c'est déjà quelque chose de comprendre la question. Hein? Puisque Hobbes dit que toute la métaphysique d'Aristote, c'est poser la question. Et il y a quelque chose de juste. C'est déjà beaucoup de poser la question. Alors il est important de voir qu'à la fin de ce chapitre premier, Aristote précise vraiment ce qu'est la question de la philosophie première. Alors, qu'est-ce que c'est que la question de la philosophie première? C'est de dire, questionner sur l'être, qu'est-ce que c'est que l'être? C'est questionner sur la substance. Questionner sur l'être, c'est questionner sur la substance. Questionner sur la substance, c'est de savoir le TST de l'ousia. Donc, on va chercher le TST de l'ousia. Et on a dit précédemment, si vous vous souvenez, on a dit précédemment que l'ousia, c'est le TST de l'être. Donc vous n'avez qu'à mettre ça en parallélie et réfléchir là-dessus. N'est-ce pas? Pour essayer de comprendre ce que représente cette interrogation métaphysique. Nous posons la question du TST de l'ousia. Qu'est-ce que c'est que l'ousia? Qu'est-ce que c'est que la substance? Et nous avons dit précédemment, ceci est présupposé comme, que la substance, c'est le TST de l'homme. C'est qu'est-ce que c'est que l'être? La substance, c'est le qu'est-ce que c'est que l'être. Le qu'est-ce que c'est fondamental, premier. Le TST premier de l'être, c'est la substance. Donc, vous voyez bien, par rapport à l'être, nous sommes devant une double interrogation. Le TST de l'être, c'est la substance. Et nous demandons le TST de l'ousia. Donc nous sommes bien au carré de l'interrogation du TST. La question se pose à une seconde lecture, vous voyez, c'est pas une première lecture. Il y a une première lecture de se demander le TST de l'être, au niveau du légétail. Au niveau du légétail, on se dit qu'est-ce que représentent les différentes acceptations de l'être. Les différentes acceptations de l'être, c'est la qualité, la quantité, la substance. Donc, première lecture. Seconde lecture dans laquelle nous allons entrer maintenant, c'est de savoir le TST de l'ousia. Oui, l'intelligence peut toujours se poser le qu'est-ce du qu'est-ce. Hein? Voyez bien. C'est le TST du TST de l'être. C'est pour ça que je dis que c'est bien l'interrogation au carré. Ce n'est pas la première interrogation. Je dis ça parce que si on ne voit pas ça, on ne comprend absolument plus le reste du reste. On ne comprend absolument plus l'analyse de Don Aristote. Nous ne sommes pas du tout une analyse au niveau du légétal. Ceci s'est donné et présupposé. Nous sommes au niveau d'une analyse du siesti de l'Oudia, qui elle-même est le siesti de l'homme. Et ceci, c'est pour voir saisir ce que c'est que l'être. L'être, de fait, vous voyez, ne se donne pas directement. L'être est toujours caché, ne se donne pas directement. Vous ne saisissez pas du tout ce que c'est que l'être directement. Vous voyez, Aristote est très loin d'une intuition de l'être. Hein. Très, très loin. Parce que là, c'est important, parce qu'on a peut-être fait lire Aristote et des choses qu'il ne disait pas. Ce n'est pas du tout une intuition de l'être. Puisque l'être, l'égétal, se donne dans des déterminations. Et ces déterminations, il faut savoir ce qu'elles sont. Et donc, il faut saisir ce qu'il y a de premier dans ces déterminations. Le qui est-il de l'outil. Donc, voyez bien, ce chapitre premier est très important parce qu'il nous montre, d'une part, la difficulté de saisir l'outil, l'ambiguïté de l'outil. Il s'agit de la tension qu'il y a dans le point de vue de la substance. Dès que vous regardez le point de vue de la substance, vous êtes orienté vers la détermination première. Vous êtes orienté vers le point de vue du sujet. Alors, est-ce qu'on peut identifier la substance avec le diesti? Est-ce qu'on peut identifier la substance avec le sujet? Toute la question est là. Et toute la recherche d'Aristote sera pour essayer de déterminer cette question, qui est posée au point de départ. Et elle est pourtant sujet, et elle est pourtant diesti. Elle est les deux. Il faut maintenir les deux. Or, les deux s'opposent. Dans une pensée dialectique, on pourrait très bien faire l'opposition entre le point de vue du diesti et le point de vue du sujet. Le point de vue du sujet et le point de vue du diesti s'opposent, puisque le sujet, par définition, c'est ce qui n'est pas déterminé. Et le point de vue du diesti, c'est ce qui est déterminé. Alors vous voyez bien l'opposition qui existe entre les deux. Et la l'ousia fait le lien entre les deux. L'ousia unit la détermination et l'ousia unit le sujet. Ceci, ça nous est donné. C'est une donnée. Nous avons regardé que l'être se disait de multiples manières, le langage est là pour nous le montrer, et si nous étudions bien le langage, nous voyons que de fait, l'ousia joue le rôle du sujet. Alors, la substance va donc, l'ousia va donc impliquer en elle-même toujours cette tension. Il va y avoir toujours les deux aspects, qui va expliquer du reste comment, traditionnellement, on est tombé dans le panneau. On a ramené l'ousia ou au diesti, on a ramené l'ousia ou au point de vue du sujet. Et Aristote montre, dès le point de départ, qu'on ne peut pas. On ne peut pas abandonner l'un et l'autre. Si on est dans une philosophie de l'être, on ne peut pas abandonner l'un et l'autre. Donc, l'ousia implique les deux. Pour bien poser le problème et pour essayer d'orienter vers le point de vue de la solution, il faut donc comprendre que nous posons le problème non pas de l'ousia, mais du tiesti de l'ousia. Alors, se poser le problème de l'ousia, du tiesti de l'ousia, ça veut dire non pas savoir ce que représente l'existence de la substance, mais ce qu'est la substance. Et c'est en essayant de saisir ce qu'est la substance qu'on verra progressivement comment on ne peut pas identifier le tiesti de l'ousia avec le sujet, et qu'on ne peut pas identifier le tiesti de l'ousia avec le point de vue de ce que représente la cuisine. Et qu'il faudra dépasser. Et tout l'effort sera dans ce dépassement. Donc, au point de départ, on montre la tension, et au terme, on essaiera de voir le dépassement. Ouais, je crois que ça, c'est l'importance de ce chapitre premier. Voyons tout de suite, maintenant, dans les autres chapitres, puisque, encore une fois, nous ne pouvons pas rester trop longtemps dans ce livre. C'est ça. Le chapitre 2 est très facile à comprendre. C'est un chapitre facile, parce que, de fait, c'est un chapitre qui nous montre des diverses opinions. Arrêtez de parler de ça. Une petite topique rapide du chapitre 2. Intéressant pour ceux qui s'occupent de l'histoire de la philosophie. C'est intéressant. Mais Aristote, après, il a donné une grande topique historique au point de départ, alors ici, ça va aller très vite. Aristote, donc, au chapitre 2, nous dit que dokein, ce qui semble, ce qui paraît être, dokein de ou et ousia. Donc, ce que l'ousia paraît être, semble être, selon ce que nous disons, ce que l'on nous disons habituellement. Donc, il donne en premier lieu l'opinion commune, l'opinion de tout le monde. Dans une topique, vous savez bien, il faut toujours distinguer l'opinion commune et l'opinion des pares. Aristote le dit dans les topiques. Alors, l'opinion de tout le monde, elle est donnée au point de départ. Tout le monde considère que la substance, c'est le point de vue des animaux, des plantes, des vivants, de ce que représente le tout de l'univers, l'ensemble de l'univers, et peut-être aussi les parties de l'univers. Donc tout le monde considère, c'est intéressant parce que ça nous montre l'opinion commune dans laquelle Aristote travaille. Hein. Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire ça. Mais pour Aristote, la topique historique, ça change. Hein. C'est évident, la topique historique change. Depuis Aristote, il y a eu pas mal d'opinions sur la substance. Alors, de fait, le dokei n'est plus du tout le même. Mais pour Aristote veut dire ça, parce qu'il est dans une perspective qui fait que la substance est pratiquement unie ici à la phusis, et on peut dire que selon l'opinion commune, la substance, ce sont les animaux, les plantes et les vivants, et puis l'univers. Deuxièmement, l'opinion des philosophes. Seconde partie, c'est l'opinion des philosophes. Il ne faut pas regarder seulement l'opinion de tout le monde, mais il faut regarder l'opinion des philosophes. Alors ici, il faut évidemment voir des distinctions. Les philosophes ne disent jamais ce que tout le monde dit. Alors, il y a une distinction à préciser. Selon l'opinion des philosophes, il faut regarder d'abord l'opinion des pythagoriciens. C'est les pythagoriciens qui arrivent en premier. Pour les pythagoriciens, la substance, c'est la limite des corps. C'est la surface, c'est les lignes, c'est l'unité. C'est toute la théorie des pythagoriciens qui considèrent que le nombre est la substance des corps, que la surface est la substance des corps. Vous voyez, la vision mathématique du monde et qui identifie les substances aux figures géométriques, qui identifie les substances, au nombre, c'est-à-dire aux figures géométriques. C'est intéressant parce que ça nous fait comprendre que dans la perspective des pythagoriciens, la substance n'est pas ce qu'on voit. La substance, c'est quelque chose de plus profond. Nous dirions aujourd'hui, c'est la structure. Vous voyez, c'est la structure des choses. Que c'est la figure, c'est le nombre, c'est ce qui donne aux choses leur armature. C'est ça que les pythagoriciens. Or, les pythagoriciens ont quand même été dans l'ordre de cette perspective sur les substances les premiers. C'est sans doute pour ça qu'Aristote est situé en premier lieu. C'est les pythagoriciens qui ont saisi en premier lieu ce que c'était que la substance. Du moins un souci de saisir en premier lieu ce que représentait la détermination dans l'ordre de l'être. Puis ensuite, Aristote dit l'opinion de Hippon, qui est beaucoup moins intéressante, c'est de considérer que seuls les êtres sensibles sont les substances. Et puis en troisième lieu, l'opinion de Platon. Platon arrive en troisième lieu, l'opinion de Platon qui consiste à dire que les substances sont les substances éternelles. C'est les idées. Les idées sont les substances. Donc Aristote considère Platon avec beaucoup de liberté. Ce que nous avions vu l'autre jour, que justement les formes idéales n'étaient pas pour Platon la substance. Tandis qu'ici Aristote prend substance dans le sens de la détermination première dans l'ordre de l'être, et donc à ce point de vue-là, on peut dire que les idées sont les substances. Mais c'est une perspective qu'Aristote projette sur Platon. Il rappelle aussi l'opinion de Speusi. Speusi, vous voyez bien, successeur premier, n'est-ce pas, après Platon, en considérant que l'un et les substances sensibles sont aussi la substance. Et puis l'opinion de Xénocrate. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Aristote rappelle les quelques grandes opinions. Alors si vous regardez ces opinions, vous voyez qu'il y a une manière de concevoir la substance au niveau mathématique, donc purement formel, une manière de ramener la substance à l'aspect sensible, une manière de regarder les substances séparées, les substances éternelles, et une manière de considérer la substance comme l'un. Aristote, après avoir rappelé ces différents points, nous dit qu'il faut les juger. Il faut voir ce qu'est exact. Dès qu'on rappelle la topique, les opinions des autres, la philosophie n'est pas au niveau des opinions des philosophes, mais la philosophie consiste à essayer de comprendre ce qu'il y a d'exact dans l'opinion des philosophes, ce que représente l'opinion des philosophes. Parce que le philosophe est censé essayer, à travers ses opinions, de voir comment tous ceux-là ont cherché la vérité. Pourquoi et comment une substance peut être séparée? Allez, Aristote pose le problème. Hein. En face de ces philosophes, nous voyons qu'il y a un grand problème. L'ambiguïté de la substance n'est plus du tout la même qu'ici. C'est la seconde ambiguïté de la substance. Je crois que ici, le problème se pose de façon plus nette et plus précise encore. La grande ambiguïté, quand on regarde les opinions des philosophes, c'est de voir qu'on ramène les substances sensibles, c'est-à-dire le monde physique, l'univers sensible, l'univers en mouvement. La substance, c'est l'univers. Première position, grande position. Deuxième grande position, il faut passer par les mathématiques. Le structuralisme de l'époque. C'est le point de vue des formes mathématiques. mais qui forme un émalgame qui donne l'aspect de la substance. Troisième point de vue, c'est de considérer les substances séparées. Voilà la grande position qu'il faut. Et donc le grand problème, c'est de savoir existe-t-il vraiment des substances séparées. Quand il s'agit de la substance sensible et le problème du pythagoricien, ce n'est pas tellement difficile. Au fond, le grand problème pour Aristote, c'est de savoir s'il existe des substances séparées. Il le pose très nettement, pas après cette topique historique, il nous dit que c'est là le grand problème. Il faut essayer de comprendre ce que représentent ces substances, si ces substances séparées existent. Pourquoi et comment? Il y a les deux, les doubles interrogations. Pour cela, il faut expliquer ce qu'est la substance. Vous avez le terme très joli de hypotuphosanélo. Donc si vous essayez de saisir ce que représente le hypotuphosanélo, vous voyez que Platon aurait dit là, il faut essayer d'avoir un logos mythique. D'accord ? C'est tout à fait ça. Et alors Aristote remplace ce logos mythique en disant le hypotuphosanélos, c'est-à-dire saisir l'esquisse fondamentale. Il s'agit de saisir ce qu'il y a de fondamental à travers tout ça. Et saisir en essayant de préciser le tiesti de la substance. Alors, regardez le texte grec. Et vous voyez que la fin du chapitre 1er et la fin du chapitre 2 se terminent de la même manière sur le tiesti de la substance. Donc vous voyez, ces deux chapitres nous introduisent dans le tiesti de la substance. Ce sont deux introductions, vous avez dit, mais ce sont deux introductions. L'introduction première qui pose le problème avec une très grande force pour montrer au point de vue de l'intelligence l'ambiguïté de la substance. Le second qui pose problème par rapport aux opinions et qui montre encore l'ambiguïté de la substance. La substance est-elle uniquement la substance sensible? La substance implique-t-elle les substances séparées? C'est pas si comme notre sort d'agir. Il faut agir de voir. Alors, comment pouvoir répondre à cette double ambiguïté? La seule manière de répondre, c'est de chercher le tiesti. Donc, voyez bien que ça, je crois que l'intention d'Aristote est nette. On ne peut pas nier que l'intention d'Aristote est nette. Le projet, si vous voulez, d'Aristote est très très net. C'est de chercher le tiesti de la substance qui pourra seul nous faire sortir de cette ambiguïté et qui pourra seul nous faire comprendre ce qu'il peut y avoir de vrai dans des opinions des philosophes antérieurs à lui qui montrent des positions très très différentes par rapport à la substance. Alors nous entrons dans le chapitre 3. Le chapitre 3 est donc le premier chapitre des déterminations d'Aristote. Chapitre 3, très intéressant. Il est très intéressant sous une quantité d'aspects. Et il faut bien voir, ceux qui veulent suivre attentivement la pensée d'Aristote, vous voyez que ce chapitre 3 n'a pas un ordre logique parfait. Ce sont des notes. Et là, il y a des petits tournants dangereux. Si vous voulez découvrir un point de vue absolument logique, vous voyez que vous attendez une détermination, et ce n'est pas cette détermination-là. Ce qui fait que nécessairement, ce chapitre 3 va impliquer une interprétation. Je crois que vous ne pouvez pas, on voit bien l'intention dominante, elle est facile à comprendre. Mais si vous suivez attentivement le texte, vous êtes obligé de dire à un moment donné, mais pourquoi dit-il ça? Il n'y a pas de conclusion, c'est très curieux. C'est comme si, de fait, il y avait deux rédactions. Je crois qu'il y a deux rédactions. Il y en a une première très rapide, une seconde qui l'amplifie. Et il faut considérer ces deux rédactions comme successives, mais ne se continuant pas. Mais successives. Deux rédactions successives qui... La seconde explicite la première, tout simplement. Vous voyez? Alors, ceux qui veulent regarder ça attentivement verront bien que ces deux rédactions me semblent assez nettes, n'est-ce pas? C'est lorsque justement ils donnent une conclusion et que de fait on n'a pas du tout de conclusion. Vous allez voir, vous direz les tournants. Donc, le chapitre 3 commence en nous rappelant la substance est dit de multiples manières. Vous voyez, ça a l'air de reprendre encore, encore une reprise. Mais c'est très très différent. Dans le chapitre 3, il regardait les opinions des philosophes. Ici, il va ramener ces opinions des philosophes à ce qu'il considère comme quatre grands problèmes. Si nous regardons l'ensemble de ce que nous avons dit précédemment, donc le chapitre 1er et le chapitre 2, la réduction de ces deux chapitres se ramène à cela. Vous n'avez qu'à faire la réduction, vous le verrez tout de suite. Se ramène à quatre sens principaux de la substance. Car la substance de chaque chose semble, doc être, semble être. C'est encore donc un point de vue d'hypothèse, une hypothèse de recherche. La substance de chaque chose semble être le totienainan, le tokatolou le taux Guénot et le taux Hypocalyménot. Vous avez compris les cartes, hein? Je les prends pour que vous les voyez bien. C'est important, c'est d'une certaine manière la ponctuation de toute analyse qui va donner. Donc voyez bien, les deux chapitres précédents, qui sont comme deux introductions, se ramènent à ces quatre significations possibles de la vie. Autrement dit, je crois qu'après ces deux introductions, Aristote montre qu'il y a quatre possibilités de saisir le CSI de la substance. Quatre possibilités. Si nous regardons ce qui a été dit précédemment. Quatre possibilités, Aristote n'en acceptera aucune. Donc c'est quatre hypothèses. Quatre hypothèses. La première, le taux si M est nul. Au moins savoir ça. Quand on fait un peu d'Aristote, c'est d'avoir le taux qui est nul. Si vous n'avez pas le taux qui est nul, essayez d'apprendre. Le taux est nul et le tiers. C'est très important parce que ça joue un rôle capital dans la pensée d'Aristote. C'est un mot qu'il a inventé, donc il faut quand même le reconnaître. Il n'a pas inventé beaucoup de mots, il en a inventé deux. Il a inventé deux mots. Hein. Donc s'il a inventé deux mots, ça prouve qu'il jugeait que le langage était incapable d'exprimer cela. Et donc, il invente ce mot-là pour torpiller l'éthos. Il faut bien voir ça. C'est pour torpiller l'éthos de Platon. Le sotiaïnaïnaï, c'est la flèche du pas contre le point de vue de l'éthos de Platon. Alors c'est d'essayer de comprendre, parce que ça c'est très important. Le sotiaïnaïnaï, je l'ai déjà expliqué, je le réexplique pour que vous compreniez bien, le sotiaïnaïnaï est le tien à l'intérieur du sotiaïnaïnaï. Le tien correspond, je vous parle un tout petit peu du grec, le tien. N'est-ce pas? Alors, le quest, c'est à l'aoriste, c'est-à-dire le quest qui demeure. L'horis, c'est un verbe qui demeure, justement. Alors, c'est ce qui demeure. Ce qui demeure dans le fait d'exister. Le toena. Le toena, c'est le fait d'exister. Donc, prenez le fait d'exister et le tien. Le tien est à l'intérieur du fait d'exister. Dans le fait d'exister, on se pose la question, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui est radical? Qu'est-ce qui est radical dans...